Lizzie présente Je t'aime de Barbara Abel. Lu par Cachou Kirsch. L'amour et la haine font souffrir, mais l'amour est préférable. Il passe plus vite. Eugène Marbeau. Prologue. La première fois que Maud a dit « je t'aime » à quelqu'un, c'était par écrit. Elle avait 17 ans, l'été commençait à peine, et avec lui, les vacances scolaires s'étalaient à perte de vue, jusqu'à une rentrée lointaine et négligeable. Septembre ressemblait à un concept. Elle venait de tomber amoureuse d'un garçon de 3 ans son aîné, jeune étudiant en médecine, rencontré à l'anniversaire d'une amie commune. Louis. Ils ont roucoulé une semaine durant avant de partir chacun de leur côté pour des vacances prévues de longue date. En 1998, si les téléphones mobiles se banalisaient, les communications coûtaient un bras. Les mails nécessitaient la possession d'un ordinateur, les portables et autres laptops étaient encore rares, raison pour laquelle la lettre restait le moyen de communication le plus répandu. Perdue au fin fond de l'Espagne, en compagnie de ses parents, Maud a attendu un mot doux de Louis pendant 2 interminables semaines, guettant chaque jour l'arrivée du facteur. Elle avait envoyé une missive au début de son séjour, révélant entre les lignes la force de son amour et la folie de ses attentes. La distance idéalisait la romance, l'absence de l'aimer en aiguisait le désir. Sans nouvelles de Louis, son cœur jouait aux montagnes russes, passant en un éclair des sommets exaltés de l'espoir au creux dépressif du doute. Le 17e jour, enfin, au retour d'une balade, une lettre est apparue parmi le courrier, le miracle qu'elle n'attendait plus. Fébrile, elle a décacheté l'enveloppe et découvert un court feuillet gribouillé d'une écriture à peine lisible. Le jeune homme, dont la graphie ressemblait déjà à celle du médecin qu'il était appelé à devenir, avait couché sur le papier ses émois qu'elle a eu un mal de chien à décrypter. Les quelques phrases manuscrites semblaient receler tout le mystère de ses sentiments. Au bas de la page, pourtant, quelques mots effaçaient tout doute quant à l'adoration du jeune homme. « À vite, mon amour !» Transportée par cette déclaration qu'elle n'espérait plus, Maud s'est empressée de lui répondre. Tremblante, elle a achevé son billet par ces mots d'une folle audace, concédant à leur relation une intimité qui lui faisait tourner la tête. « Je t'aime !» Au moment d'écrire ces 7 lettres, son cœur s'est répandu dans sa poitrine. Il l'a inondée d'une chaleur épicée, une flamme à la fois distincte et diffuse, un truc bizarre qui encombrait son corps et son esprit tout ensemble. Elle y a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle était. Sa chair et son âme. Les vacances se sont achevées sans autre nouvelle de Louis. À son retour, Maud s'est empressée de lui donner rendez-vous, consumée par un feu que le fantasme avait nourri sans relâche. Arrivée 1 quart d'heure à l'avance, elle a utilisé ce temps pour magnifier un lien qu'elle avait déjà largement célébré dans ses rêves les plus fous. Soyons clairs, les retrouvailles ont été un échec cuisant, un naufrage qui a englouti jusqu'au tison oublié. Louis s'est révélé être d'une piètre compagnie, un jeune homme terne, dépourvu de charme et d'esprit. À ne pas comprendre ce qu'elle lui avait trouvé d'attirant quelques semaines auparavant. La désillusion a été à la mesure de son tourment amoureux, et Maud a dû faire preuve de cruauté pour rompre. Néanmoins, la déception est demeurée gravée dans son cœur, lui inspirant une prudence qui, depuis, ne l'a plus vraiment quittée. Louis est resté celui qui, à son corps défendant, a révélé à Maud le bourreau qu'elle était. Sa part d'ombre. Son côté barbare. Surtout, cette mésaventure lui a fait comprendre que, en amour comme dans la vie, il est des circonstances qui ne souffrent ni délai, ni pitié. Pour Solange, les choses ne se sont pas du tout déroulées de la même manière. La première fois qu'elle a dit « je t'aime » à quelqu'un, c'était à elle-même. Debout devant le grand miroir du hall d'entrée de l'appartement de ses parents, elle se regardait, vêtue d'un jean taille haute, froncé à la ceinture, et d'une blouse un peu trop large pour elle, dont l'échancrure du col dénudait négligemment son épaule gauche. Gauche également sa pose, celle qu'elle tentait en vain de rendre flatteuse, parodie fatale d'un aplomb qu'elle était loin de ressentir et que le reflet du miroir s'évertuait à rendre pour ce qu'il était, ridicule. C'était en 1988, l'époque des pulls chauve-souris, des sarouels et des vestes millets. Elle écoutait A.A., Dépêche Mode, Peter Gabriel ou Frankie Goes to Hollywood dans son Walkman Auto Reverse. Elle avait 16 ans, des illusions à revendre et un trac fou. Elle avait surtout rendez-vous une heure plus tard avec un garçon de sa classe, Benoît, dont les lacunes en maths nécessitaient une remise à niveau. Solange était bonne élève. C'était donc tout naturellement vers elle que le garçon s'était tourné pour l'aider à décoder une matière dont la complexité le dépassait. Persuadée que la leçon n'était qu'un prétexte, elle enchaînait les attitudes devant la surface réfléchissante, curieuse de découvrir l'image qu'elle allait renvoyer à son interlocuteur. Tantôt grave, tantôt mutine, elle testait posture et réplique avec la fièvre d'un anthropologue sur le point de découvrir une nouvelle ethnie. Les airs décontractés succédaient aux mines plus aguicheuses, une démarche volontaire, une expression d'ingénue. Puis, les yeux mi-clos, elle a rejeté la tête en arrière avant de susurrer les deux mots sacrés « Je t'aime ». La leçon de maths s'est passée sans autres échanges qu'arithmétiques, Benoît n'ayant rien tenté de plus que de comprendre algorithmes, amplitudes et autres opérations qui résonnaient en lui comme des formules kabbalistiques. Sans se l'avouer, Solange en a éprouvé un dépit corrosif, blessé dans son amour-propre, bien décidé désormais à ne s'en tenir qu'aux seules équations dont les inconnues lui semblaient beaucoup moins complexes que celles du cœur. La première fois que Nicole a dit « je t'aime » à quelqu'un, c'était dans une pièce de théâtre, une adaptation très approximative du « Songe d'une nuit d'été » de William Shakespeare, interprétée par la troupe amateur de la fac de droit. L'année 1983 venait à peine de débuter, elle avait 19 ans. Elle était Lysandre, un des quatre Athéniens, un rôle d'homme puisqu'il n'y avait pas assez d'acteurs pour incarner les différents personnages masculins. Le metteur en scène l'avait choisi en raison de son manque de féminité, une appréciation qu'il avait émise à haute voix sans se préoccuper de la sensibilité de la personne concernée. La pièce, qui dans la version de Shakespeare avoisinait les 2h30, avait été ramenée à moins d'une heure en raison des frais de location de la salle des fêtes. La scène durant laquelle Lysandre livre ses émotions à Hermia pendant plusieurs pages avait été réduite à quelques répliques, parmi lesquelles l'exclamation « Je t'aime » devait résumer la profondeur de ses sentiments. Lors des trois représentations, cette réplique avait déclenché l'hilarité à un moment censé provoquer le trouble amoureux. Le spectacle avait été un fiasco retentissant, tant au niveau du nombre de spectateurs que de leur accueil de la pièce. Depuis, Nicole tient le souvenir de cette expérience à distance et le considère avec un certain mépris quand il s'impose à sa mémoire. Elle en a déduit que l'amour n'était qu'une vaste comédie dont on ne récoltait que sarcasme et moquerie. Alice, elle, n'a encore jamais dit « je t'aime » à quiconque. Au moment où commence notre histoire, elle n'a pas tout à fait 18 ans et a toute une vie pour déclarer sa flamme à l'être aimé. À moins que... L'amour est une puissance dont la force est capable de faire ou défaire un destin. Aussi doux qu'il peut être sauvage, aussi exaltant qu'il peut être pitoyable, aussi divin qu'il peut être démoniaque, il est multiple, complexe et inconstant. Chacun de nous a fait l'expérience de ces romances qui ont coloré nos vies au gré de nos émois, de nos victoires ou nos défaites. Si ce n'est pas votre cas, c'est que vous n'avez pas vécu. Entre évidence, illusion et espoir, il guide souvent nos pas sur le chemin escarpé de l'existence. Et quand, après avoir brisé notre cœur, il nous abandonne à notre sort, exsangue et anéanti, c'est encore lui que nous cherchons lorsque, une fois sur pied, nous repartons à l'assaut de ces sommets abrupts. Ceci n'est pas exactement une histoire d'amour, même si on ne peut nier l'influence capitale qu'il va exercer sur les destinées de Maud, Solange, Nicole et Alice. Quatre femmes dont les routes vont se croiser au gré de leur façon d'aimer parfois, de haïr souvent. Parce que rien n'est plus proche de l'amour que la haine.